VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Il est 17h, temps universel. Bonsoir, bienvenue au Burundi à la veille de la proclamation des résultats issus des présidentielles de mardi dernier. L'heure est à l'harmonisation des points de vue au sein des différents états-majors, des partis politiques, coalitions et ou sociétés civiles. Toutes les parties indiquent être disponibles pour la poursuite du dialogue selon l'agenda fixé par le facilitateur, le président ougandais Yoweri Museveni, mais les partenaires politiques burundais ne s'entendent pas sur l'annulation des derniers scrutins législatifs et présidentiels. Eric Manirakiza.
Le Prona constitutionnel a déjà reconnu la victoire du président Pierre Nkurunziza pour son troisième mandat, contesté par l'opposition et la société civile. Par la voix de son candidat Gérard Ndouaïo, l'ancien parti unique estime que le Burundi devrait repenser son système politique dans la perspective d'une stabilisation démocratique politique du pays, en tenant compte des équilibres dictés par les accords de paix d'Arusha. Agathon Rwasa, président du parti FNL non reconnu par le pouvoir, voudrait plutôt un gouvernement de transition qui ne dépasserait pas une année en vue de créer un environnement favorable à la tenue des élections transparentes, inclusives et apaisées, une approche refutée par l'Alliance démocratique pour le changement ADC Ikibiri. La présidence burundaise affirme quant à elle que les prochaines élections se tiendront en 2020. Joint par VOA Afrique, Willy Nyamitwe, conseiller de Pierre Nkurunziza, souligne que toute proposition allant dans la logique de bâtir une paix durable serait toujours la bienvenue.
En Centrafrique, des hommes armés non identifiés ont enlevé le 9 juillet dernier le maire et le sous-préfet de Baboua dans l'ouest de Bangui. Monsieur David Boko et Samuel Tora revenaient d'une réunion de restitution sur le forum de Bangui organisé par le ministre résident de la dite localité lorsqu'ils sont tombés entre les mains de leurs ravisseurs. Des précisions avec le préfet de la Nana Mambéré, Frédéric Wagonda, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Bon, en fait, le sous-préfet de Baboua et le maire de Baboua, comme les autres sous-préfets de la Nana Mambéré et les maires, ont été conviés à la réunion de restitution sur le forum de Bangui. Et cette réunion était présidée par le ministre résident. Ils étaient arrivés, ils ont participé à la réunion. C'est à leur retour qu'ils ont été kidnappés.
Ben, il s'agit donc du maire et du sous-préfet uniquement.
Bon, ils étaient nombreux parce que ces malfrats, quand ils étaient sortis, ils arrêtaient toute moto, tout véhicule systématiquement. Les gens étaient dépouillés. Mais comme le maire et le sous-préfet revenaient sur leur moto, et quand ils les ont appréhendés, ils ont demandé l'identité de chacun. Mais le maire, lui, comme il portait sa médaille de maire, on l'a vite reconnu et le sous-préfet a donné son identité aussitôt. Ils ont libéré les autres otages qu'ils ont pris et ils ont gardé le maire et le sous-préfet.
Mais qui sont ces auteurs d'enlèvement?
Bon, vous savez, présentement, l'identité des auteurs n'est pas encore reconnue, mais des contacts ont été déjà établis. Mais vous savez, comme nous sommes en discussion, il y a le secret et la discrétion qui est aussi là, monsieur le journaliste.
Frédéric Wagonda, préfet de la Nana Mambéré en Centrafrique. Maroua, toujours sous le choc au Cameroun, 24 heures après le double attentat qui a frappé cette ville de l'extrême nord du pays, deux jeunes filles se sont faites exploser. La sécurité dans la ville a été renforcée ce jeudi. Tatiana Mousseau.
C'est le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari, qui a annoncé les nouvelles mesures. Il y aura désormais un contrôle des véhicules, des biens et des personnes. Certains passages de la frontière avec le Nigeria ont été fermés.
Nous avons demandé à la police, à la gendarmerie, de sécuriser davantage ces marchés, d'instituer des ceintures de sécurité. Et il y a certainement des stratégies militaires que celles seront déployées. Des mesures ont été données en effet d'assurer au maximum la sécurité des biens et personnes.
Ces mesures viennent s'ajouter à l'interdiction du voile intégral décidée il y a deux semaines après l'attentat de Fotokol. Les djihadistes de Boko Haram ayant pris l'habitude de se servir des femmes kamikazes. Le président camerounais Paul Biya a condamné ces récentes attaques, appelant la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les forces de sécurité.
Et 8 personnes ont été abattues par des hommes soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram dans un village de l'état de Borno au Nigeria, ont rapporté l'AFP qui cite un habitant et un milicien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et maintenant, le dossier de ce journal, départ ce soir de Barack Obama pour le Kenya. Cette visite met surtout l'accent sur l'économie. Monsieur Obama prendra part au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le 25 juillet, une initiative qui rassemble des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. Pour une analyse, Nicolas Pino a joint le chercheur Amadou Sy de la Brookings Institution.
La marque du président Obama, quand il s'agit de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique, c'est vraiment le volet économique. Déjà, à cause des contraintes au niveau du Sénat, je pense que les Africains n'espèrent pas trop une augmentation de l'aide au développement en provenance des États-Unis. Mais par contre, je crois qu'il y a ici une volonté d'écouter les Africains, d'avoir un partenariat avec les Africains. Et qu'est-ce que les Africains disent ? Ils disent, voilà, nous voulons transformer nos économies, nous voulons avoir un taux de croissance beaucoup plus élevé, nous voulons une croissance plus inclusive. Et ça commence déjà par exemple, plus d'infrastructures, plus d'investissements, une part plus importante qu'on devrait donner au secteur privé. Alors là, je crois que les étoiles étaient alignées parce que le président Obama est venu avec cette volonté de soutenir les efforts des pays africains.
Ce voyage du président américain mettra aussi l'accent sur l'intégration économique régionale.
Vous savez, le président Obama va aussi visiter à Addis le siège de l'Union africaine. Vous savez, cette année, il y a trois dates très importantes. On vient juste de finir la conférence sur le financement du développement à Addis. En septembre, on aura la conférence à New York, l'Assemblée générale, où on va parler de ces objectifs qui vont remplacer les objectifs du millénaire. Et bien sûr, à Paris, on va parler du changement climatique et comment s'adapter, comment gérer un peu les effets du changement climatique. Alors l'Afrique, à ma connaissance, est le seul continent qui vient avec une position unique, une position africaine commune par rapport à toutes ces questions du moment. En plus de ça, le Kenya joue un rôle très important, un rôle de leader en ce qui touche la communauté de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie joue aussi un rôle de leader pour tout ce qui touche, en anglais on dit IGAD.
Est-ce qu'il n'y a pas un goût d'achevé pour la présidence de Barack Obama, dont le programme phare est Power Africa, qui se concentre sur l'électricité ?
Voir les pays africains comme des partenaires économiques, je crois que c'est déjà un très bon début. Maintenant, par exemple, en ce qui touche le programme Power Africa, qui vise à augmenter la production d'électricité dans 6 pays pour le moment, c'est vrai que ça prend du temps. Les contrats, les programmes, les projets prennent du temps à être bouclés. Mais ce n'est pas trop une surprise. Par contre, je crois que l'État américain est en train de dire aux privés américains aussi et aux privés africains, écoutez, réfléchissons ensemble, voyons comment gérer les défis, voyons comment surmonter les obstacles à plus d'investissements.
Amadou Sy de la Brookings Institution, joint à Dakar. Le sport pour terminer. En Europe, sanctions exemplaires contre le racisme. Un point a été retiré de la Croatie pour comportement raciste après l'incident en juin lors du match Croatie-Italie qui s'était soldé par le score de 1-0. On se souvient qu'une croix gammée était apparue, tracée sur la pelouse lors de ce match de qualification à l'Euro 2016 de football. L'UEFA a également décidé que les deux prochains matchs à domicile de la Croatie se jouerait à huis clos et a interdit à la sélection de disputer des matchs qualificatifs pour l'Euro dans le stade de Split. L'UEFA a également infligé une amende de 100 000 € à la Fédération croate qui dispose de 3 jours pour faire appel. Au titre des transferts, le défenseur international guinéen Florentin Pogba a prolongé de 2 ans son contrat avec l'AS Saint-Étienne. Avant d'arriver à Saint-Étienne, le défenseur âgé de 24 ans, né à Conakry, a joué au Celta Vigo, première division espagnole, toujours chez les jeunes, puis à Sedan, deuxième division française. Il est le frère de Paul Pogba, international français de la Juventus de Turin. Hassan Ould Tegedi, lui, s'est engagé avec Villarreal, où il intégrera le centre de formation dans un premier temps. Villarreal a recruté ce jeune espoir mauritanien, présenté comme un futur grand. Hassan Ould Tegedi est âgé de 17 ans et vient de rejoindre la Castilla de Villarreal. Un partenariat a également été signé entre le club espagnol et l'Académie nationale mauritanienne dans le cadre de ce transfert. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochain rendez-vous de l'information, c'est exactement dans 20 minutes et ce sera dans le magazine Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez avec nous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.